Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Bonjour chers lecteurs et auditeurs. Alors, Lecture par tous est toujours fidèle au rendez-vous, bien entendu. Et dans notre philosophie, si je puis dire, oui, carrément, philosophie, qui consiste à vous faire découvrir tous les métiers qui existent autour du livre, nous allons vous permettre aujourd'hui de découvrir un des métiers peut-être les plus obscurs ou les plus méconnus du monde de l'édition, grâce à Edith Noublanche qui est avec nous. Bonjour Edith Noublanche.
Bonjour.
Et puis elle sera interrogée par Rachel Millau. Bonjour Rachel.
Bonjour à tous.
Une de nos collectrices les plus fidèles. Alors quel est ce métier? C'est celui de correctrice.
Oui, tout à fait.
Alors correctrice, Kezako, que fait une correctrice dans le monde de l'édition?
Alors, elle commence par recevoir de la part d'un éditeur un manuscrit, puisqu'on travaille avec les maisons d'édition. Ça, c'est la première chose à souligner. Un éditeur nous confie un manuscrit qu'il a choisi, et on va prendre en charge ce texte pour le corriger. Alors, le corriger, aussi bien dans le sens de corriger une dictée, c'est-à-dire supprimer les fautes d'orthographe que l'on pourrait trouver, que vérifier la grammaire, vérifier la syntaxe, la typographie, c'est-à-dire tout ce qui concerne les espaces, les points, les virgules, contrôler aussi tout ce qui est mise en page de texte, etc. Mais en même temps s'attacher au contenu, vérifier qu'il n'y ait pas d'incohérence, contrôler les informations, etc. C'est un ensemble de contrôles. En fait, on met notre nez absolument partout. Voilà. Et on va, avec l'auteur, ou en tout cas pour l'auteur, faire des commentaires et éventuellement des propositions si l'on pense que quelque chose est à modifier dans le texte. Voilà pour résumer, en gros, on va dire.
Alors, pour les gens qui pourraient s'intéresser à ce métier, quelles sont les qualités d'un correcteur ou d'une correctrice? Quelles doivent être les qualités d'une correctrice?
Alors, je dirais que la première des qualités, c'est le doute, la modestie. Enfin, doute et modestie, pour moi, ça va ensemble. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on pense connaître des choses, on est persuadé de savoir un certain nombre de choses. Et la première des qualités, c'est de surtout bien douter de tout ce que l'on connaît et de systématiquement aller vérifier. Parce qu'en fait, c'est là que se trouvent les pièges les plus importants. Alors qu'on a des certitudes, et bien quand on commence à vérifier, on se rend compte que ces certitudes-là peuvent être très vite battues en brèche, quoi. Mmh. Donc, on sait qu'en règle générale, par exemple, dans une règle de grammaire, la règle est toujours simple quand on l'énonce. Là où ça se complique, c'est quand on commence à avoir toutes les exceptions et puis les cas spécifiques d'emploi, etc. Et bien là, c'est pour chaque mot, en fait. Voilà. Pour moi, c'est vraiment, je crois, ce qui compte le plus. Après, il faut bien évidemment être curieux, être extrêmement concentré quand on travaille. Et puis voilà, ne pas aussi dans le sens, je disais tout à l'heure, modestie, humilité, peut-être connaître exactement sa juste place aussi, c'est-à-dire ne jamais se prendre pour l'auteur. Mm-hmm. On n'est pas là pour réécrire à la place d'un auteur, et on n'est pas auteur, on est correcteur avant tout. Donc voilà, c'est ça surtout.
Alors personnellement, j'ai corrigé des mémoires et des thèses. Et je sais que c'est un gros travail, on y passe beaucoup de temps. Et moi-même, j'ai été corrigée, et donc je sais que ce n'est pas toujours facile pour un auteur, justement, d'accepter de revoir son texte. Mais dans mon cas personnel, il ne s'agissait pas de textes littéraires. Et je me demandais quelle est la différence quand on corrige des textes littéraires.
Quand on corrige des textes littéraires, alors je dirais que Il faut à la fois... moi, je fais aussi des corrections de thèse, ça m'arrive. Effectivement, ce n'est pas du tout la même chose parce que dans une correction de texte, on n'a pas de notions stylistiques comme on peut en avoir en littérature. Mmh. En littérature, on est bien obligé de faire attention au fond et à la forme.
Mmh, c'est ça. Mmh.
Dans une thèse, la forme compte moins, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a corrigé l'orthographe, la grammaire, l'expression en règle générale, on n'aura pas à s'attacher à des choses comme le rythme. Par exemple, avec certains auteurs, il m'est arrivé, quand je sais que les auteurs en question travaillent beaucoup sur les sonorités, eh bien de travailler moi aussi sur les sonorités, c'est-à-dire de me dire à un moment donné, voilà, tel mot doit être, à mon sens, modifié, supprimé, remplacé. Mm-hmm. Bon, il faut que je fasse attention moi-même aux sonorités de ce que je propose ou à la sonorité de ce que je propose, de façon à ce que l'auteur puisse s'y retrouver, que ma proposition ait des chances d'être validée. Mm-hmm. Ça, c'est une chose qui est totalement absente des corrections de thèse, par exemple.
Oui.
Oui, donc il y a une, dans ce que vous décrivez, il y a une vraie interaction entre le correcteur et l'auteur du texte, alors qu'on pourrait imaginer, on se dit, bon, c'est dans les phases techniques d'impression d'un document, on vérifie qu'il n'y ait pas trop de coquilles avant l'impression finale. Non, c'est vraiment beaucoup plus proche de l'auteur.
Moi, je trouve, encore une fois, je parle pour moi, mais le travail que j'effectue, je l'effectue vraiment en lien avec les auteurs et je fais systématiquement attention à surtout ne pas bousculer ce que l'auteur a écrit, mais aller dans le sens de ce qu'il a proposé en faisant que ce soit le plus juste possible. Il y a aussi la notion il faut se dire, garder à l'esprit qu'une langue est quelque chose de vivant, que si elle évolue, si elle bouge, c'est aussi grâce aux écrivains et que par conséquent, moi qui suis censée, en tant que correctrice, être un peu la gardienne du temple, c'est-à-dire la chienne de garde, celle qui va dire non, non, il ne faut pas dire comme ceci ou écrire comme cela parce que la règle exige que. Il faut avoir justement cette conscience que si l'auteur veut quelque chose et veut ainsi faire évoluer la langue de manière générale, il est en droit de le faire. Par contre, là, une des choses sur lesquelles j'insiste pour ma part, c'est que quelqu'un qui veut comme ça transgresser une règle, la première des choses, c'est qu'il le fasse en conscience. C'est-à-dire qu'il connaisse la règle et qu'il sache que là, il va la transgresser, il veut la transgresser, que ce ne soit pas un hasard. Voilà. Et donc, et c'est comme ça une somme de non-hasards, on va dire, qui vont faire évoluer une écriture, un style. Mais c'est vraiment un travail en lien avec les auteurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime le plus dans ce genre de travail. C'est savoir que quand on a l'habitude ou quand on a la chance de pouvoir avoir l'habitude de travailler avec un auteur, eh bien, on connaît ses travers, il connaît les nôtres. Et ça, on en fait une équipe. On essaie de transformer tout ça, de faire un mélange qui va finalement donner la meilleure plus-value possible au texte qui nous est arrivé entre les mains, qui nous a été confié par l'éditeur.
Mmh. Alors, est-ce qu'il existe une formation pour exercer ce métier? Est-ce que vous en avez une à recommander? Est-ce que vous en avez suivi une personnellement?
Moi, je suis un très, très mauvais exemple en tout point, dans le sens où je n'ai pas suivi de formation, mais il existe des formations. Pourquoi n'ai-je pas suivi de formation? C'est parce que j'ai estimé de manière fort immodeste que si je retournais faire la formation qu'on me proposait, je passerais plus de temps à revoir des choses que j'avais déjà faites plutôt que d'en apprendre de nouvelles. Cela dit, je suis absolument pour toutes les formations possibles et imaginables et je conseille à quiconque se sent des faiblesses ou des lacunes de bien évidemment aller faire ses formations. N'en ayant fait aucune, je suis bien en peine de pouvoir en conseiller une en particulier parce que ce serait basé sur des choses que j'ai entendues et pas vérifiées. Donc, je pense que c'est assez peu souhaitable. Quoi qu'il en soit, avec ou sans formation, il faut savoir qu'on c'est un peu choisir le rôle du vin, c'est se destiner à s'améliorer de jour en jour, quoi, et devenir meilleur avec le temps. Mais je pense que si je reprenais les premiers textes que j'ai corrigés, je ferais des bons de maître
Des choses que vous avez laissées passer.
J'ai laissé passer, que je sais ne plus laisser passer aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a aidé à exercer ce métier avec...
Alors, je suis au départ germaniste, donc germaniste et traductrice aussi. Et en fait, j'ai vécu longtemps à l'étranger, j'ai enseigné la langue française. Et c'est en fait ce passage à l'étranger face à des gens qui me questionnaient sur ma langue, que j'ai vraiment commencé moi-même à m'interroger sur une langue. Quand vous vous retrouvez face à des élèves qui d'un coup vous disent « Ah ben oui, mais tu dis « je vais, nous allons », tu peux m'expliquer pourquoi ?» Et là, vous vous dites « Tiens, c'est bizarre, mais moi, en me levant le matin, j'ai jamais eu ce genre de réaction. » C'est-à-dire que pour nous, les choses qui sont innées ne sont pas les mêmes que pour ceux pour qui elles sont acquises. Mm-hmm. Donc, il faut se questionner comme ça pour toujours se dire, mais voilà, à tel moment, je suis en train de m'exprimer de telle façon. Est-ce la plus pertinente ou pas, selon le contexte dans lequel je me trouve? Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au français, on va dire. Et puis, par mes études, quand même, j'avais derrière moi Hippocagne, Cagne, oui. Bon, parcours de littéraire, quoi. Donc, voilà, je ne me suis pas levée un matin en me disant, tiens, je vais devenir correctrice. D'ailleurs, je ne me le suis jamais dit, mm-hmm. Ça m'est tombé dessus, ce qui peut paraître étrange, mais c'est comme ça. Mais par contre, je suis ravie que ça me soit arrivé parce que c'est vraiment un métier qui est une passion, quoi. Mmh.
Donc, vous êtes aussi traductrice. Vous avez d'abord été traductrice avant d'être correctrice?
Non. Je ne sais pas. Je peux pas vous dire exactement ce que j'ai été en premier. Ce que je sais, c'est qu'en étant littéraire et en m'étant toujours intéressée au texte, j'ai très vite rencontré des auteurs. Alors, j'en ai rencontré, je crois, d'abord en Autriche, en fait. Et puis après, bien quand je suis revenue m'installer en France également, mais j'ai toujours côtoyé des auteurs que j'ai accueillis dans des rencontres, etc., et avec lesquels j'ai développé des liens et qui peu à peu, par amitié, m'ont dit si tu pouvais regarder mon texte, dis-moi. Et puis, j'ai un défaut, c'est que quand on me pose une question, j'essaie de donner la réponse. Et quand bien même cette réponse serait un peu difficile à donner, quoi. Donc, j'ai mis mon nez dans les textes comme ça. J'ai commencé à dire, tu vois, voilà ce que je pense de manière générale. Mais pour rentrer dans le détail, voilà ce que j'ai repéré. C'est comme ça que finalement, sans même qu'on me le demande, j'ai commencé à corriger. Et du coup, ça s'est fait de plus en plus. Et puis après, ce sont les éditeurs qui m'ont demandé, et voilà.
Alors, vous parlez aussi de votre activité du côté de la traduction. On a reçu ce micro par téléphone, mais on a eu Michel Volkovitch, oui. Un éminent traducteur. Mais je me disais, quelles interactions il y a quand il s'agit d'un texte traduit? C'est-à-dire, on entend le travail avec l'auteur, hein, vous nous évoquiez. Mais quand ça se joue à trois, quand il y a l'auteur, le traducteur
et
le correcteur, vous corrigez le correcteur en lien avec l'auteur ou pas? Comment ça fonctionne?
Parce qu'on corrige,
ça fait beaucoup de monde sur un texte, quoi.
Oui, ça fait beaucoup de monde. Alors, ça fait beaucoup de monde en sachant qu'il y a une personne qui est omniprésente mais qui n'aura jamais voix au chapitre, c'est l'auteur. C'est-à-dire que dans une traduction, il est souvent difficile d'être en rapport avec l'auteur, surtout pour des histoires de correction, on va dire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on travaille en fait avec les traducteurs dans ce cas-là. Une maison d'édition choisit une œuvre étrangère. Elle achète les droits de cette œuvre étrangère, qui rentre alors dans son catalogue. L'éditeur fait traduire le texte par un professionnel qui devient l'auteur du texte, puisque tout traducteur est auteur, c'est pour ça qu'on assimile les deux. Et donc, une fois que l'auteur français du texte étranger a fini son travail, l'éditeur le confie au correcteur. Et donc, à partir de là, le travail se fait entre le correcteur et l'auteur français du texte étranger. Et ce qui devient très, très intéressant, c'est que, et on a là finalement le même terrain de jeu, et moi j'y vois beaucoup de similitudes entre le travail d'un texte, le travail que fait un traducteur et le travail que fait un auteur, on ne laisse rien passer. Un traducteur, il ne peut pas se permettre d'à peu près. Il est obligé d'aller vraiment dans le détail, d'aller chercher le style, le niveau de langue, de se conduire de la même façon que s'est conduit l'auteur dans sa langue source, la langue de départ. Et finalement, en tant que traductrice, moi, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais prendre le texte qui m'est donné, traduit
ou pas. En tant que correctrice, vous voulez dire ?
Oui, en tant que correctrice, oui. Je fais la même chose, c'est-à-dire que je prends le texte qui m'est donné, qu'il vienne d'un auteur ou d'un traducteur, peu importe, et je vais rentrer comme ça dans le détail. Et là où ça devient très intéressant, et moi c'est absolument fascinant pour moi qui suis aussi traductrice, c'est de voir que on va en tant que correcteur être capable de pointer du doigt des choses qui vont finalement déceler des petits soucis, des petits accrochages au moment de la traduction. Parce que, voilà, comme on aurait le travail en question avec un auteur français, ben on va, à ce moment-là, arriver à trouver ce qui fait que ça passe pas de la façon dont on aurait voulu que ça se passe, quoi.
Alors, vous avez une page Facebook sur laquelle vous expliquez en quoi consiste votre métier. Est-ce qu'on peut la citer ?
Oui, tout à fait, bien sûr.
Alors,
venez tous.
Donc le nom exact, je crois que c'est...
Ben, c'est tout simplement mon nom.
Voilà, Edith Blanche,
correctrice, relectrice.
D'accord.
Voilà.
On mettra la référence sur notre page à nous.
Alors, je peux citer quelques mots que j'ai appris grâce à cette page. Des mots techniques pour les gens qui s'intéressent à la profession. Donc on a le mot bourdon, par exemple. Qui signifie, qui désigne un oubli de mots, de lettres ou de paragraphes.
Oui.
Il y a aussi le mastic, c'est une inversion de lettres. Par exemple, quand on écrit singe au lieu de cygne.
Ce que je fais très souvent, d'ailleurs.
Voilà. Après, vous expliquez aussi la différence entre boîte à lettres et boîte aux lettres. Ça, c'est...
Oui.
C'est une question qu'on m'avait posée, d'ailleurs. Ou bien la différence aussi entre de nouveau ou à nouveau.
Oui, tout
entre
à fait.
Ceci dit et cela dit.
Oui.
Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez nous expliquer.
Alors, en fait,
ce que je choisis,
voilà, c'est tout simplement l'idée au départ, c'était de parler de mon métier. Mmh, je suis ravie, d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invitée. Parce que c'est une occasion rare et une occasion que j'apprécie particulièrement. Quand on aime quelque chose, on aime en parler, on aime expliquer aux gens ce en quoi ça consiste. Et par définition, le correcteur est dans l'ombre. Donc, c'est assez difficile de le faire. Et j'avais envie, c'est un auteur qui m'a soufflé en disant, qui m'a soufflé l'idée, me disant, mais tu devrais parler de ton métier parce que c'est quand même assez dingue la correction, quoi. Même les auteurs sont toujours surpris de ce qu'on arrive à faire. Et donc, voilà, on m'en a soufflé l'idée. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter dans cette page ? Et en fait, je suis allée voir sur les pages d'autres correcteurs et je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas du tout à ce que moi, j'avais envie de raconter. Mm-hmm. J'avais envie d'expliquer aux gens ce qu'était mon travail. Et ça s'est transformé petit à petit en une sorte de journal. Donc, je vais aussi bien parler des obligations administratives auxquelles on est confronté quand on est correcteur, que raconter effectivement une anecdote qui est arrivée à un moment ou à un autre en tant que correcteur, ou alors, comme vous le disiez tout à l'heure, venir sur des choses techniques ou beaucoup moins techniques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens comprennent ce dont il est question. Et donc, voilà, Donc en fait, c'est ce que je sens au moment où je le sens. C'est devenu une sorte de journal. À le regarder, je me dis, bah, y a mes humeurs, quoi. Quand je suis dans un texte, par exemple là, oui. J'étais sur un texte ces derniers jours qui se passe à Madagascar, rédigé par un auteur de Madagascar, avec donc une langue tout à fait spécifique, bien sûr, qui n'est pas le français qu'on est en train d'utiliser nous, mais qui va avoir des mots exotiques, etc. Bah, hier, le petit billet que j'ai fait, je l'ai fait sur, justement, ces différences de contexte qu'on peut avoir, de langue qu'on peut avoir, et sur lesquelles on est obligé de travailler, corriger, par exemple, une phrase... qui est la traduction d'une sorte de créole entre l'anglais et le jamaïcain traduit en français, ça demande aussi de trouver des choses pour rendre ça en français. Donc, bien évidemment, le traducteur l'a fait, mais c'est à moi, correcteur, de vérifier qu'il y a une cohérence dans toutes ces traductions-là et que, voilà, ça
oui,
ça,
puis ça calme bien. D'évaluer si ça fonctionne. Exactement. Ou si ça ne fonctionne pas.
Si ça fonctionne ou pas, tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc voilà, finalement, cette page, elle me plaît bien, en fait, parce que je me rends compte que ceux qui y viennent sont étonnés et reviennent et commentent et me disent « Non, mais voilà, c'est surprenant, on n'imaginait pas ça. » Parce que finalement, le public ne connaît rien de la correction, si ce n'est qu'il y a des mauvais correcteurs qui laissent des fautes dans des livres. Et ça me fait toujours rire, parce que rire jaune parfois, mais quand on sait le travail qu'on effectue, le nombre de remarques qu'on fait sur un texte, etc., entendre des gens dire « Oh là là, il reste 5 fautes ou 10 fautes ou même 15 fautes dans un texte de 400 000 signes », ouais, d'accord, mais il faudrait qu'on soit plusieurs. Tout dépend aussi des contextes dans lesquels on travaille, en termes de temps, etc. Donc, c'est pas si simple que ça. On fait notre mieux, on n'est pas parfait, on le sait. Donc, on tend vers la perfection en sachant qu'on ne l'atteindra jamais. Pour qu'un texte soit à peu près impeccable, vous imaginez la formule, à peu près impeccable. C'est vraiment un non-sens, mais c'est ce que je ressens.
Ça ressemble un peu à un oxymore.
Tout à fait, mais parce qu'il faudrait être plusieurs, et que même à plusieurs, je ne suis pas sûre qu'on arrive à la perfection.
Moi, j'ai toujours entendu dire que certains grands éditeurs pour des collections de prestige, bon, je pense à la Pléiade chez Gallimard, il y a X relectures.
Mais bien sûr.
Et n'empêche que...
Ah ben, on continue à en trouver.
On peut encore trouver des coquilles
ou des
choses bizarres, y compris dans des volumes de la Pléiade. Donc, bon, en fait, faut avoir l'œil affûté quand
donc,
même.
Donc quand même, ce qui se passe, c'est que les gens, dans ce cas-là, les lecteurs ont la dent assez dure en disant bah, « le livre n'a pas été corrigé,
c'est n'importe quoi. »
C'est n'importe quoi, les correcteurs, on se demande ce qu'ils font, etc. Et ça m'agaçait un petit peu aussi, je dois dire. Ça m'agace d'ailleurs toujours. Même si effectivement il est regrettable qu'il reste des choses, et j'avais envie aussi d'expliquer au public comment ça peut arriver, comment il se fait que malgré toute l'attention qu'on va déployer, malgré tous les efforts que l'on peut faire, eh bien parfois il reste des choses. Et croyez bien que le plus malheureux dans ce cas-là, c'est quand même le correcteur. Parce que ça fait de la peine à l'éditeur, ça fait de la peine à l'auteur, mais je peux vous dire que le correcteur en question, dans son coin, il morfle, quoi. On accuse le coup, nécessairement.
Alors, je me posais une question. Il y a quelques décennies en arrière, les traducteurs étaient royalement ignorés. C'est-à-dire qu'on avait des textes traduits, mais le nom du traducteur n'apparaissait même pas. Je me dis, en vous écoutant, mais il serait légitime que le nom des correcteurs ou correctrices apparaisse lorsqu'on édite un livre. Qu'est-ce que vous en pensez de...
Les
traducteurs, ça y est, c'est gagné.
Moi, j'en pense que j'ai de la chance et que j'ai une grosse partie de mes éditeurs, on va dire, qui mettent mon nom dans le livre. Alors certes, c'est en petit à la fin, mais c'est pas moi qui écris le livre, donc je vois pas pourquoi j'aurais mon nom sur la couverture. Cela dit, c'est vrai que c'est une forme de reconnaissance. Après, compte tenu de ce que je viens de vous raconter sur les fautes qui peuvent rester, c'est le meilleur moyen aussi pour passer pour une andouille, quoi, parce que s'il reste des choses à l'intérieur, c'est forcément... Là, vous pouvez plus vous cacher derrière l'anonymat de certaines maisons, ou... quelle que soit la façon dont vous travaillez, de toute façon, on ne vous verra pas. Moi, il y a des maisons dans lesquelles je passe totalement inaperçu, dans le sens où le lecteur voit l'auteur, c'est à peine qui je suis. Et je passe à des maisons dans lesquelles j'ai vraiment une place, un rôle, et on met mon nom dans le livre, et mon nom est sur le site de la maison, etc. Après, c'est vraiment une politique de maison. Ça dépend vraiment de l'éditeur avec lequel on travaille, ça dépend de la taille de la maison, ça dépend de plein de choses. Moi, je trouve légitime que le nom figure dans le texte, même si je vous dis, c'est un peu un bâton pour se faire battre. Quoi, parce que, mais en même temps, on est tellement... Enfin, c'est quand je travaille sur un texte, pour moi, c'est un peu mon bébé aussi. Quoi. J'en prends ma part, même si elle est très modeste, et même si je ne suis pas l'auteur, même si je ne suis pas l'éditeur, même si je ne suis qu'une petite main. Le travail que je fais, dans la mesure où il est conséquent, où il est important, où il a aidé au développement du texte, il a aidé à préciser les choses, l'auteur a été content, l'éditeur a été content, bah, c'est un peu légitime de vouloir être associé au texte en question, je vais dire un vilain mot, mais au produit en question, puisqu'on est plusieurs.
Oui, quand on dit produit, ça fait bizarre.
Oui, mais quand on sait toutes les interventions dans la chaîne du livre, toutes les interventions sur un texte, avant que le texte ne soit un vrai texte, il est d'abord un produit sur lequel on travaille et plusieurs intervenants viennent y jouer leur rôle.
Alors, nous arrivons au bout de cette émission. Peut-être une dernière remarque, Rachel.
Moi, j'avais
rapidement,
une question,
parce qu'il nous reste 2 minutes.
Alors, vite fait. Alors, j'ai 2 questions en une. je voulais savoir si vous auriez des lectures à nous recommander, d'une part. Et d'autre part, j'ai entendu que vous détestez l'acronyme PAL, donc pile à lire. Et je voulais savoir pourquoi.
Ça va de pair. C'est-à-dire que comment peut-on avoir une pile de quelque chose, on a une pile d'objets, mais on n'a pas une pile de livres. On n'a pas une pile à lire. Moi, quand je vois le temps que passent les auteurs sur leurs textes, les éditeurs à les sélectionner, le temps que je passe, moi, à corriger, etc., etc., tout ça mis bout à bout, ce sont des heures de travail. Et la simple idée que des gens puissent entasser les livres en question et les engloutir comme ils engloutiraient n'importe quoi, ça a tendance un peu à me gêner, quoi. Donc, c'est pour ça que je déteste cette expression. Pour les livres que j'aurais à vous conseiller, c'est tout simplement tous les livres. Il n'y a pas de livre en particulier. Chacun est une découverte. Voilà.
Voilà, mais je crois que c'est important dans cette rencontre qu'on a eue aujourd'hui, que nos auditeurs puissent réaliser. Oui, c'est un énorme travail avant qu'un livre arrive entre vos mains. Et j'ai envie de dire, il y a un respect à avoir.
Tout à fait.
Ne serait-ce que ça. On peut ne pas aimer, ça n'a rien à voir. Mais voilà, un petit peu de respect par rapport aux heures, voire aux années de travail que cela représente. C'est comme vous allez dans un grand restaurant, vous n'aimez pas ce qu'il y a dans l'assiette, vous n'aimez pas.
Mais de là,
il y a quand même eu un travail derrière.
Exactement. Et pour les auteurs, moi, quand j'ai eu des textes entre les mains dont je sais qu'il a fallu 10 ans pour les écrire. Les voir engloutis en une demi-heure et catalogués à jamais, et on passe au suivant, et ça me fait mal au ventre, quoi. Voilà. Donc, respect, comme vous le dites.
Bien, eh bien, merci beaucoup, dites-nous Blanche, de ce témoignage qui a permis de jeter une petite lumière sur un métier presque obscur, on va dire.
Oui, tout
mais
à fait.
Ô combien essentiel. Merci à vous.
Merci de votre invitation.
Merci Rachel de ta contribution.
Merci
et merci à Rongemaille, à la technique, et à très bientôt pour de nouvelles lectures. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.